France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Le climat change, c'est un fait avéré et constaté partout sur la planète. On estime que le réchauffement moyen mesuré depuis le début de l'ère industrielle est déjà de plus 1 degré. Les ressources en eau se raréfient, les sécheresses ici ou ailleurs sont de plus en plus fréquentes. En Inde, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud ou ailleurs, de nombreuses crises, des pénuries d'eau ont régulièrement lieu. Et au total, plus d'un quart des humains sont en situation déjà de stress hydrique très grave. D'ailleurs, dans le classement des pays aux ressources en eau problématiques établi par les experts, la France n'est pas forcément très bien placée. On apprenait ce matin avec Clara Lecoq-Réal que plus de 80 départements français étaient placés sous restriction d'eau en ce moment. Le climat change et les sols se dégradent. C'est peut-être un peu moins connu, un peu moins su. C'est ce que vient souligner un nouveau rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, publié aujourd'hui. Ça a des conséquences sur l'agriculture et sur l'alimentation, alors que la population mondiale, par ailleurs, augmente. Ça a des conséquences aussi évidemment sur le climat, ce qui pourrait entraîner, on le comprend assez vite, et ce qui entraîne déjà un cercle vicieux. Mais ce rapport du GIEC donne aussi les clés du changement et montre quelles pourraient être les solutions. Il nous explique que l'agriculture est aussi une solution et c'est de ça dont on va parler ce matin. Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
Vous êtes économiste, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'alimentation, dont un est disponible sur Internet, le plus récent, Agriculture, alimentation et réchauffement climatique. Également avec nous ce matin, Mathieu Brun, bonjour.
Bonjour Ben Mouscarel.
Chercheur au sein du club Déméter, qui est un groupement associatif du secteur agricole et alimentaire. Vous êtes consultant en géopolitique et doctorant à Sciences Po, spécialiste des questions d'agriculture, d'alimentation et de développement. Alors, si ce rapport du GIEC est très intéressant, c'est notamment parce qu'il va à l'encontre de quelques idées reçues en matière d'agriculture et d'alimentation. On y apprend notamment que l'agriculture n'est pas vouée fatalement à être liée à des conséquences mauvaises sur notre environnement. Bruno Parmentier, l'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui dans le monde et telle qu'on pourrait l'imaginer dans les années à venir, c'est là où c'est intéressant, est à la fois peut-être un problème mais surtout une solution et une piste de solution possible.
Oui, l'agriculture est triplement concernée. C'est le seul secteur. D'abord, c'est le premier secteur victime, parce que les plombiers, les marchands de téléphones portables sont victimes du réchauffement climatique. Mais enfin, c'est rien à côté des agriculteurs. Les agriculteurs, eux, c'est leur fonds de commerce. Ils gèrent l'eau, le climat, la température, les radiations solaires, etc. Donc, évidemment, qu'ils sont complètement affectés. Mais ensuite, c'est une des principales causes. Globalement, l'agriculture, l'alimentation et tout, c'est à peu près le quart des gaz à effet de serre. Donc, il faut arriver à produire malgré le réchauffement climatique, mais aussi sans réchauffer la planète. Et puis alors, c'est là que c'est intéressant, c'est un des seuls secteurs qui peut nous solutionner cette crise. Parce que pour solutionner, d'abord, il faut arrêter d'émettre. Mais enfin, on a émis. Il y a une autre idée qui est de dire, on peut pas récupérer le carbone. Et là, pareil, c'est pas les marchands de vélos qui font ça, je veux dire. C'est pas les coiffeuses. Comment on fait? On plante des arbres et on couvre le sol en permanence pour fixer du carbone de nouveau dans le sol. Donc, l'agriculture est complètement liée au réchauffement climatique et particulièrement dans les zones tropicales où là, faut encore augmenter très fortement la production agricole. Mais c'est là que l'agriculture va être impactée en direct par les sécheresses, les inondations, les ouragans, les maladies, les épidémies.
Elle l'est déjà, et on va voir tout ça, Bruno Parmentier. On peut peut-être commencer aussi par expliquer que les ressources de la Terre, si elles étaient bien utilisées, bien réparties, pourraient suffire à nourrir les quelques 10 milliards d'humains que nous serons en 2050, d'après les projections. Et de là découle, Bruno Parmentier, que la démographie, et contre-intuitivement, n'est pas le problème.
Mais écoutez, quand j'étais jeune, la faim dans le monde avait un pays, c'était la Chine. Ils étaient que 700 millions. Mao Tse-tung avait une idée de travers, c'était 10 millions de morts, de faim. Aujourd'hui, ils sont 1,3 milliard. On mange beaucoup, beaucoup mieux dans la Chine d'1,3 milliard d'habitants que dans la Chine de 700 millions. La différence, c'est que ils ont multiplié par 3 la production de riz, par 5 la production de blé, par 7 la production de légumes, etc. Donc, la productivité des sols n'est absolument pas à son top niveau dans la plupart des régions du monde. Et même en France. En France, depuis les années 60, on a triplé notre production. Là où on faisait 2 à 3 tonnes de blé, on en faisait maintenant 8. Là où on tirait 2000 litres de lait d'une vache, on en tire 8000. Donc c'est possible. Mais il va falloir continuer cette marche vers la productivité, mais avec des techniques agroécologiques, parce que les techniques qu'on a utilisées jusqu'à maintenant à base de chimie, de pétrole, elles arrivent au bout de ce qu'elles peuvent faire.
Mais est-ce qu'on pourra le faire justement sans ces techniques qui sont aussi donc responsables du changement climatique? C'est ce que vous venez de nous expliquer, Bruno Parmentier. Est-ce que c'est techniquement possible? Et
alors,
est-ce qu'on est en train de trouver des solutions?
Ben, par exemple, regardez, les gens se fixent beaucoup sur le glyphosate, etc. Bon, attendez. Mais l'atteinte la plus importante de l'agriculture à la planète, c'est le labour. Pourtant, c'est vraiment le symbole, hein. C'était les laboureurs.
Le fait de labourer la terre, comme on le fait depuis des siècles et des siècles.
Regardez.
C'est pas bon, c'est ce que vous nous dites.
Regardez. Dans le bassin parisien, on récolte début juillet. Il faut se rendre compte que les sols sont nus au moment où le soleil, fonctionne le plus. On dit, les agriculteurs disent, non, mais le sol est du mois de juillet ou de septembre, octobre, ça m'intéresse pas. On utilise le soleil que 6 mois par an. Mais c'est dramatique. Il faut utiliser le soleil en permanence. Faut faire au moins 2 récoltes. Faut couvrir le sol en permanence. Faut fabriquer son engrais l'été pour l'utiliser directement. L'engrais, ça se fabrique, ça se cultive. Mais c'est pareil pour les insecticides. Les insecticides, ça s'élève. On élève des bébêtes, qui mangent nos plantes. Mais c'est pareil pour les herbicides. Les herbicides, ça se cultive. On va mettre des mélanges de plantes qui empêchent les mauvaises herbes de pousser et qui, quelque part, sont complémentaires pour nous aider. Donc, en fait, il faut réinventer totalement l'agriculture. Chez nous, il faut arriver à produire autant avec beaucoup moins de tracteurs, d'engrais, de pesticides, etc. Et dans les pays tropicaux où la productivité est actuellement faible, mais les forces de la nature sont énormes, on peut augmenter très fortement en utilisant les forces de la nature plutôt que lutter contre elles.
Eh ben, on va voir ça. On reviendra sur toutes les solutions possibles, notamment ici, en France et en Europe. On voit bien que tout est un problème de répartition de la ressource et un problème de répartition aussi des matières produites, hein. Un gros problème de gaspillage. On peut parler des 30% de tout ce qui est produit en termes alimentaires qui n'est jamais consommé. D'abord, peut-être Mathieu Brun, si on rentre un peu dans des considérations géopolitique. Tout à l'heure, Bruno Parmentier parlait de la Chine. Vous étudiez particulièrement le Moyen-Orient, les monarchies pétrolières du Golfe, comment elles s'adaptent, comment elles trouvent elles aussi des solutions. Quelles sont les pistes qui sont étudiées en ce moment dans les pays que vous regardez de près, Mathieu Brun?
Alors, effectivement, comme l'a rappelé Bruno Parmentier, la Chine est confrontée à cet enjeu de sécurité alimentaire et de sécurisation de leurs approvisionnements alimentaires. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est quand même 7% des terres arables pour 20% de la population, avec un enjeu foncier très important, mais aussi un enjeu sur l'eau. On meurt de soif aujourd'hui en Chine, donc effectivement les progrès ont été formidables, mais toute la difficulté est devant nous. Et c'est la même chose pour ces pays du Golfe ou de la Méditerranée, qui sont bien entendu moins peuplés que la Chine, mais qui ont affaire aussi à l'enjeu de la sécurisation dans un approvisionnement alimentaire, dans la mesure où nourrir sa population, c'est une part du contrat social ou du pacte social qui lie les dirigeants avec la population.
Et puis c'est une question de survie, tout simplement. Enfin, il va y avoir aussi des problèmes de migration dont on pourra peut-être aussi parler, mais c'est d'abord et avant tout une question de survie.
Absolument, et je crois que le rapport du GIEC qui va être publié aujourd'hui et les différents rapports qui sont venus étayer la question ces dernières semaines et ces derniers mois rappellent l'importance de parler des sols. C'est souvent un sujet qu'on a tendance à mettre de côté, alors que depuis plus de 20 ans on en parle, on a une convention internationale pour traiter de ces questions-là, mais souvent on oublie que les sols sont à la base de la production agricole, comme l'a rappelé Bruno Parmentier, c'est une ressource très importante, de même que l'eau et que la production et que la force humaine. Et ces sols, ces pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient sont fortement, dépourvus. Les pays du Golfe, aujourd'hui, c'est à peine quelques pourcents de terres arables. Et donc, il faut produire différemment, imaginer d'autres choses, mais aussi aller chercher sa sécurité alimentaire à l'étranger, la projeter à l'étranger.
Sur les 17 pays dont on parle en ce moment, notamment à l'occasion de cette publication du rapport du GIEC, concernés par un stress hydrique majeur, 12 pays sont situés au Moyen-Orient et autour de la Méditerranée. Là aussi, il y a des questions géostratégiques qui se posent, hein, Mathieu Brun.
Absolument, si on prend un pays comme l'Égypte, aujourd'hui c'est 100 millions d'habitants, demain ce sera beaucoup plus. Hein, si vous avez eu la chance de voler au-dessus de l'Égypte ou de voir une image satellite, vous voyez cette fine bande de terre verte autour d'un désert immense, mais il faut quand même nourrir 100 millions de personnes dans un pays où 95% de l'eau vient de l'extérieur. Elle vient d'où ? Elle vient du Nil, un bassin qui est partagé entre 15 pays, dont certains comme l'Éthiopie revendiquent de plus en plus, ou même le Soudan, d'avoir accès à plus d'eau, alors qu'avant l'Égypte était en position d'hydro-hégémonie sur ces eaux. Et je crois que la question de l'eau en Méditerranée, elle se pose avec une certaine acuité, dans la mesure où le bassin méditerranéen au sud, c'est seulement 12% de l'eau douce, avec une population très importante. Et Bruno Parmentier l'a rappelé, des capacités à produire plus, évidemment, mais aussi un palier qui est atteint dans des pays où la terre manque, où l'eau manque, et où donc on a besoin de commercer, d'échanger, pour sécuriser les approvisionnements alimentaires.
Vous venez de citer l'Éthiopie, Mathieu Brun. La semaine dernière, on en a parlé, notamment dans les journaux de France Culture, quand les dirigeants de ce pays ont décidé de planter des centaines de millions d'arbres, en très peu de temps d'ailleurs. Ça fait partie des solutions, peut-être un peu en termes aussi de communication, pour dire on est là et on s'occupe du problème du changement climatique. Est-ce qu'il y a des solutions aussi de fond qui sont, et des politiques publiques de fond qui sont mises en place? Et puis la question se posera aussi pour Bruno Parmentier, est-ce que c'est la bonne solution que de planter des arbres comme ça par centaines de millions?
Alors effectivement, planter des arbres, c'est toujours quelque chose de positif, à condition de savoir quels arbres on a détruits ailleurs.
Ouais, c'est ça.
C'est une autre question. Et pour nourrir qui et pour nourrir quoi? On pourra en reparler si on traite des régimes alimentaires. Alors l'Éthiopie est un exemple très intéressant puisqu'ils ont un fort volontarisme politique en matière de développement agricole, mis en place des recherches, des politiques publiques pour essayer de développer la production agricole. Ils ont aussi ouvert leurs terres à l'étranger, ouvert leurs terres aux investisseurs étrangers, ce qui a été source de conflits, de tensions très importantes sur l'eau, sur le foncier, entre des firmes internationales, des firmes étrangères et la population locale. D'autres pays se sont largement investis dans la question agricole, le Maroc notamment, qui a mis en place un plan Maroc vert depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et qui fait face à des sécheresses à répétition et à des enjeux très importants, non seulement de production agricole, mais aussi d'offrir des revenus décents à leurs agriculteurs, à ces agriculteurs marocains.
Est-ce que de manière générale, ces politiques sont sérieuses, Mathieu Brun ?
Alors ce serait compliqué d'avoir un mot de dire ça, surtout en tant que chercheur en sciences politiques et en politique publique. Mais effectivement, ce sont des politiques qui sont très volontaristes, donc qui mettent en place des financements, des politiques et qui, sur le terrain, ont des effets qui sont assez positifs et qui se voient en termes de production, en termes de revenus. Encore faut-il que tout le monde, c'est le cas en Éthiopie, au Maroc, tout le monde ait accès à l'innovation, à la technologie, aux semences améliorées, et que personne ne soit laissé derrière, sans quoi ce sera la route vers le conflit et vers les tensions sociales.
Bon, c'est super, on est en train de redécouvrir qu'un arbre, c'était important. Bruno Parmentier
Oui, alors, prenons l'exemple du Sahel. Il y a le Sahara et le Sahel. La différence entre le Sahara et le Sahel, c'est qu'il pleut pas du tout d'un côté, il pleut un petit peu de l'autre côté. Bon, mais c'est une bande énorme, elle fait 5500 km de long. Avec le réchauffement climatique depuis 30 ans, la bande où il pleut un petit peu, elle a reculé de 200 km. Bon, les chercheurs disent, il faut au moins 300 mm d'eau pour récolter quelque chose. 300 mm d'eau, c'est à peine le quart de ce qui tombe à Paris, c'est pas beaucoup, hein. Bon. Ben, cette bande des 300 mm d'eau, elle a avancé de 200 km. Donc on a neutralisé une bande de 5500 km sur 200 km. C'est deux fois la superficie de la France, pour situer. Mais il y avait des gens là. Ben, les gens, ils pouvaient plus vivre. Ben, ils sont partis, en général, vers le sud. Mais ils sont partis avec leurs femmes, leurs enfants, leurs chèvres et leurs moutons. Les chèvres ont mangé les derniers végétaux qu'il y avait. Et puis ils ont coupé les arbres pour se faire à manger. Et autrement dit, le Sahara a avancé non pas de 200, mais de 400. 200 km à cause de la pluie et 200 km à cause de la déforestation. Donc, en 30 ans, on a éliminé de la surface utile, on va dire, 4 fois la superficie de la France. Bon, donc, replanter des arbres dans ces endroits-là en disant qu'il faut absolument empêcher le Sahara d'avancer, c'est fondamental. Mais pour le Sahel, c'est déjà trop tard. Parce que ben, tous ces gens-là, ils arrivent là où il y avait d'autres gens, avec leurs troupeaux, ben, ça fait des guerres. Hein, il y a plus rien à manger, il y a plus rien à boire, on trouve toujours un prétexte pour se faire la guerre. Alors les prétextes, il y en a, hein, les chiites contre les sunnites, les chrétiens contre les musulmans, les noirs contre les blancs,
etc. Bruno Parmentier.
Et donc on a dit qu'il fallait faire une barrière verte et malheureusement, on se fait la guerre, on fait pas la barrière verte. Heureusement, il y a quelques pays qui ont ce réflexe de survie. Vous avez parlé de l'Éthiopie qui veut planter 4 milliards d'arbres, mais la Chine. Attendez, quand on décolle de Pékin, on s'aperçoit que le désert de Gobi, il est à 20 km de Pékin. Donc ils se rendent bien compte, les dirigeants chinois. Bon, il y a 70 000 soldats de l'armée populaire chinoise qui se sont transformés en jardiniers. Ils font que ça toute la journée, planter des arbres. Le Pakistan aussi, hein, malgré ses troubles, fait ça heureusement. L'arbre, non seulement ça refroidit la planète, mais ça stabilise la terre et ça permet de manger derrière. C'est absolument fondamental. Et donc, on a eu un mouvement de déforestation gigantesque sur la planète. Pour situer, on abat à peu près 18 millions d'hectares chaque année. Vous savez, la tronçonneuse, en ce moment, ça y va. Hein ? Bon, ben, c'est l'inverse. Il faudrait replanter des millions, des dizaines de millions d'hectares en arbres, soit directement en forêt, soit, et ça nous concerne ici, en haie. Est-ce que nous, c'est à peu près la même chose? Je veux dire, on a payé les agriculteurs pour éliminer des haies pendant des dizaines d'années. Mais attendez, haies, ça fait énorme, hein? Grosso modo, 10 km de haies, c'est l'équivalent d'un hectare de forêt. Donc il faut remettre des arbres partout. Faut remettre, faire et défaire, c'est toujours travailler. En ville, on a retiré les rails du tramway, maintenant on en remet. À la campagne, on a retiré les haies, maintenant on en remet. Il faut reforester absolument, et l'arbre n'est pas du tout l'ennemi de l'agriculteur, c'est la condition de survie, au contraire.
Le problème, c'est la prise de conscience en la matière, Bruno Parmentier.
Et oui.
Faire comprendre ça, que l'arbre n'est pas l'ennemi, on peut parler d'agroforesterie, mais simplement sur les haies, revenir en arrière sur cette politique publique que vous venez de citer, d'après-guerre, ça va prendre un peu de temps en France. Est-ce qu'on voit déjà des effets mesurables du retour de l'arbre?
Écoutez, oui, je comprends l'agriculteur qui dit, ben, il y a un petit bois là, dans les 3 mètres à côté du bois, je fais moins de blé. Donc l'arbre, c'est pas bon pour le blé. Mais c'est une vision complètement micro-local. En fait, l'arbre, ça régule l'humidité. Deuxièmement, c'est pas une plante annuelle, l'arbre. Il va chercher, lui, les éléments nutritifs à 4 ou 5 mètres, alors que la plante annuelle, elle a pas le temps de faire des racines. Elle
sont 50, en concurrence.
Voilà. Ensuite, c'est lui qui va héberger toutes ces bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a plus d'hirondelles, insecticides. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Donc, en fait, il faut se dire qu'on va installer les plantes annuelles sur un tapis de racines d'arbres qui vont faire remonter les éléments nutritifs, parce que c'est pas normal, alors qu'on a peu de terre, de n'utiliser que 50 cm d'eau, de carbone, d'azote, de phosphore, etc. Faut en utiliser 2 ou 3 mètres. Et finalement, on s'aperçoit, quand on met une haie toutes les 20 mètres, finalement, sur 20 hectares, on produit plus et mieux que quand il y en a pas. Parce que les effets positifs de l'arbre compensent très largement le fait que juste là, en dessous de l'arbre, il y a un peu moins. Mais y compris, attendez, on découvre qu'on peut faire ça, par exemple pour les jardins potagers, etc. On peut faire à la fois des centrales électriques et des légumes au-dessous. Alors, on met pas des panneaux solaires jointifs. Si on met des panneaux solaires légèrement espacés et qu'on peut gérer
leur orientation...
Quand il fait très chaud, qu'il y a des canicules, c'est très mauvais pour les plantes. Et donc, dans ces cas-là, faisons de l'électricité et couvrons un maximum. Un peu d'ombre, c'est pas mal quand il y a la canicule.
On met les panneaux
donc,
à l'horizontale.
On s'aperçoit que, en fait, ce qui manque, c'est l'imagination. On croit qu'il faut toujours faire comme avant, que les laboureurs sont des laboureurs. Ben non.
Mais ça pose la question de la formation.
Les éleveurs de vers de terre maintenant, c'est pas du tout pareil.
Ça pose la question de la formation, Bruno Parmentier, des agriculteurs, des nouveaux, des futurs agriculteurs. Est-ce que ces questions-là sont prises en compte dans les formations des prochains agriculteurs?
Alors, de plus en plus, évidemment jamais assez, de plus en plus. Mais vous savez, moi qui ai dirigé une école d'agriculture pendant 10 ans, les jeunes arrivent avec un autre état d'esprit.
Ouais.
Ils arrivent en disant, mais attendez, la population nous aime pas, nous traite de pollueurs, on s'aperçoit que toute notre terre, on la balance dans la rivière, que les produits chimiques qu'on mettait avant marchent plus, etc. Faut inventer quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Ça fait 2000 ans qu'on laboure, et quand on vous dit faut arrêter de labourer, c'est quand même un changement énorme. Mais même ceux qui ont un jardin potager, ça fait 3000 ans qu'on se fait des tours de rein en bêchant son jardin potager. Et maintenant, on vous dit, mais il faut pas bêcher. C'est absurde. Ce qu'il faut, c'est réfléchir. On passe d'une agriculture mal au dos à une agriculture prise de tête. Il faut faire des mélanges de plantes qui soient intelligentes. Et ça, ça marche très bien. Il faut se rendre compte que les deux systèmes de production agricole qui, quelque part, marchent le mieux, ils n'ont jamais vu un agriculteur ni une charrue. C'est la prairie naturelle et la forêt tropicale. Ben, c'est toutes ces bébêtes et toutes ces plantes qui se complètent et qui s'arrangent. Donc on peut produire énormément et beaucoup plus que ce qu'on pense en utilisant la nature au lieu de lutter contre elle.
Oui, je voudrais juste préciser, effectivement, quand on parle de prise de conscience, de changement de pratique, un agriculteur aujourd'hui, il va faire 40-45 récoltes dans sa vie, 40-45 campagnes de blé notamment. Donc le changement pour ce genre de profession, c'est pas comme une usine qui peut changer du jour au lendemain sa ligne de production. Il faut qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit soutenue. Pour le faire, effectivement, vous parliez des jeunes qui sont de plus en plus tournés vers des productions, des modes de production alternatifs ou agroécologiques, etc. Mais la production agricole, la profession agricole, elle, pour changer, elle a besoin de temps. Elle l'a fait de manière extraordinaire ces dernières années et elle pourra le faire dans le futur, elle veut le faire, mais il faut qu'elle le soit accompagnée pour cela.
Allez, on continue cette discussion avec nos invités, Mathieu Brun et Bruno Parmentier. Après le journal de 8h, on verra que l'ail, notamment, pousse bien avec les fraises. Vous nous parlerez peut-être de ça, Bruno Parmentier.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
Et nous poursuivons notre discussion sur les conséquences en matière alimentaire et sur les implications en matière agricole du réchauffement climatique. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, rend public aujourd'hui un rapport sur la question montrant à quel point l'agriculture et l'alimentation à l'échelle à la fois mondiale et à l'échelle individuelle, on va revenir là-dessus, sont à la fois une partie du problème et aussi la solution. Nous sommes avec Bruno Parmentier ce matin, économiste, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, auteur de nombreux ouvrages, et avec Mathieu Brun, chercheur au sein du club Déméter, doctorant à Sciences Po Bordeaux. Et vous avez coordonné, Mathieu Brun, récemment le dossier de la revue Confluence Méditerranée, agriculture et politique des champs d'insécurité. C'était très récemment. Avant de poursuivre notre discussion sur des thématiques très, très larges, peut-être on pourrait axer sur l'eau, parce qu'on a un peu évoqué la question tout à l'heure dans la première partie de notre entretien. L'eau qui vient à manquer dans de nombreuses régions du monde, on parle de 17 pays donc en stress hydrique majeur, tout un tas d'autres sont en situation de pénurie ou de pré-pénurie. On verra qu'au Cap, en Afrique du Sud, on a déjà eu des cas très graves de manque total d'eau. Il y a d'autres cas en Inde notamment. Pour parler de la France d'abord, peut-être Bruno Parmentier, est-ce qu'on risque un jour le zéro day, le day zéro, je ne sais pas comment on dit, ce jour où il n'y a plus d'eau au robinet, dans certaines régions en tout cas?
Alors, la France est quand même très privilégiée par rapport à d'autres endroits. Alors, il faut se rendre compte que la Terre, dans sa course dans l'espace, elle ne balance pas l'eau, elle la garde. Il y a toujours autant d'eau sur Terre. Le problème, c'est que 97% de l'eau, elle est salée. Et elle ne sert à rien pour l'agriculture. Il ne reste plus que 3% d'eau douce. Et dans les 3% d'eau douce, les deux tiers sont inatteignables. C'est les calottes polaires, ou c'est etc. Donc ce dont on parle, l'eau pour boire et pour manger, c'est 1% de l'eau de la planète. Et malheureusement, elle est très mal répartie. Et avec le réchauffement climatique, et plutôt le changement climatique, cette inégalité de répartition va encore augmenter. Il faut voir qu'il y aura de plus en plus de sécheresses, mais comme la quantité d'eau est la même, chaque fois qu'il y a une sécheresse, il y a une inondation à côté. Regardez par exemple... Il y a une sécheresse autour de la Méditerranée, mais il fait chaud. Je veux dire, la Méditerranée, elle ne cesse de s'évaporer. Il y a plein d'eau dans l'atmosphère. Et donc, au bout d'un moment, ces nuages, il faut bien qu'ils retombent. Ben, c'est pour ça que, par exemple, dans le sud-est, il y a des orages de plus en plus énormes, parce que il y a beaucoup d'eau, il faut bien qu'elle retombe. Ouais. Dans les deux cas, c'est un problème pour manger.
Comment
sécheresse,
on ne
mange pas. Inondation, on ne mange pas.
Comment on gère ça, Bruno Parmentier, à l'échelle de la France?
Alors, à l'échelle de la France. Tenez, par exemple... Le sud-ouest de la France. Le sud-ouest de la France, maïs irrigué. Bon, il n'y aura plus d'eau dans la Garonne. La Garonne à Toulouse, ce sera bientôt comme le Gard à Nîmes. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'eau dedans, puisqu'il n'y a plus de... Enfin, plus d'eau l'été, évidemment. Bon, or, finalement, quand on prend du recul, on se dit, sur chaque champ dans le sud-ouest, il tombe assez d'eau pour le maïs. Le problème chez nous, c'est que dès que l'eau tombe... Ce qu'on veut, c'est la balancer dans la mer. Donc, il faut la garder. Il faut faire des retenues d'eau, alors peut-être pas des lacs, etc. Mais surtout, il faut la garder sur son champ. Et là, par exemple, c'est l'idée de la couverture permanente. Je reviens au non-labour. Si vous labourez pas et que vous cultivez des vers de terre, tous ces vers de terre, en fait, la plupart, ils font des trous verticaux. C'est génial pour garder l'eau dans son champ. On la garde. Et deuxièmement, les vers de terre, ils font le pré-trou. Et la racine, du coup, c'est plus facile pour elle. Et un champ avec plein de vers de terre, par exemple le maïs, fait faire les racines à 1,50 m de profondeur au lieu de 50 cm. Et donc, si dans le sud-ouest de la France, on stocke l'eau grâce aux vers de terre, et qu'ensuite, grâce aux vers de terre, le maïs va le chercher, on a beaucoup moins besoin d'irrigation. Mais en plus, on n'est pas obligé de faire du maïs qui est uniquement qui est une plante de pays tropicaux humides qui a besoin de beaucoup d'eau. On peut aussi passer au sorgho, par exemple, qui est une plante de pays tropical sec qui a besoin de moins d'eau l'été. Donc, il y a plein de solutions quand même dans nos pays. Dans les pays du Sahel, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, parlons, alors le Sahel, on en a parlé un peu tout à l'heure, Mathieu Brun, de l'Inde qui fait face à d'énormes problèmes d'approvisionnement en eau en ce moment.
Effectivement, en fait, ces grands pays comme la Chine, comme l'Inde sont confrontés à des vastes pénuries d'eau. D'abord, je crois qu'il faut le rappeler, alors qu'on utilise une grande partie de l'eau douce disponible pour l'agriculture, on a une forte concurrence sur les usages. Les activités industrielles, touristiques sont des activités qui rentrent en concurrence avec la production agricole, et encore plus quand cette production n'est pas destinée à l'alimentation humaine. Il faut aussi rappeler derrière ce que vous avez décrit, Bruno Parmentier, disons la vision scientifique et du fonctionnement même de la terre avec la superficie et la quantité d'eau disponible, que derrière l'eau il y a une question sociopolitique, il y a une question de conflit et de géopolitique. C'est-à-dire qu'au-delà de la concurrence de ces usages, on a un problème avant tout qui est également politique, dans la mesure où les conflits autour de l'eau dans ces régions comme l'Inde ou comme la Méditerranée, où on a des fortes pénuries, des fortes inégalités en termes de ressources, engendrent des conflits et des tensions. L'actualité récente l'a encore rappelé à Bassora en Irak ou ailleurs. Quand on est dans des fleuves comme le Tigre et l'Euphrate, où en bout de course on n'a plus d'eau, alors qu'un peu plus haut, à des milliers de kilomètres bien entendu, on a des grands pays comme la Turquie qui construisent beaucoup de barrages pour
qui retiennent
l'eau, et donc qui ont un poids géopolitique important, une arme finalement face à des pays qui ont besoin de cette eau. Et sans eau, on voit bien le cycle vicieux du conflit et des tensions sociales.
La pêche est menacée dans de grandes parties du monde, Bruno Parmentier ?
Alors, la pêche, elle est menacée de tout court. Elle est clairement menacée par la surpêche. Je veux dire...
Il n'y a plus de saumon au Canada.
L'Europe, par exemple, discute en permanence polémique avec les pêcheurs pour savoir si les pêcheurs ont le droit de sortir une dernière fois pour prendre le dernier poisson ou si ça arrête à l'avant-dernier. Bon, c'est d'abord la surpêche. Mais le réchauffement climatique aussi. Parce que les poissons, eux, ils peuvent bouger. Et donc, ils migrent vers le nord au fur et à mesure que l'eau se réchauffe. Bon, à la fin, on ne va pas avoir que des poissons autour du pôle nord et du pôle sud. Et puis, deuxièmement, une bonne partie de la reproduction du poisson, de la vie de la mer, c'est les coraux. Et les coraux, ils n'aiment pas la chaleur. Et donc, s'il n'y a plus de coraux, il n'y a plus de poissons. Donc, la pêche est clairement menacée à la fois par la surpêche et par le réchauffement climatique. Et donc, d'une manière générale, il faut se dire, les pêcheurs ont 3000 ans de retard sur les éleveurs. Ça fait 3000 ans que les éleveurs ont dit, ça me fatigue de courir derrière le sanglier si j'élevais des cochons. Et les pêcheurs, ils disent, mais non, mais moi, ça me fait prendre l'air. Je sors derrière le poisson. Non, mais attendez, on sort derrière le poisson avec les technologies de l'armée américaine. Si on avait mis l'armée américaine en forêt de Fontainebleau pour tuer les sangliers, il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus. Bah, c'est pareil pour les poissons. Donc, si on veut manger du poisson, il faut l'élever. Mais attention, faut pas élever du poisson carnivore. Parce que, par exemple, le seul poisson d'élevage quasiment qu'il y a en Europe, c'est le saumon en Norvège. Mais le saumon, c'est un poisson carnivore. On finit d'écluser les dernières sardines et les derniers anchois dans le Pacifique Sud pour pouvoir nourrir les saumons de l'Atlantique Nord. C'est pas durable du tout. Il faut élever des poissons herbivores. Et donc ça, c'est un changement de consommation énorme. Mais il y a des pays qui l'ont compris. Parce qu'en France, on n'a pas. Il faut se rendre compte qu'on a quand même des milliers de kilomètres de côte. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire un consensus en disant « Allez, il y a 5000 kilomètres pour les baigneurs et puis 500 pour les éleveurs. » Bon, on doit pouvoir y arriver, mais enfin bon, ce n'est pas possible. Ben, oui, mais en Chine, ils l'ont fait. On produit actuellement plus de poissons d'élevage que de bœufs en tonnage. Il faut se rendre compte, sur la planète. Sauf que la moitié de ces poissons, c'est la Chine. Et un quart, c'est le sud-est asiatique. Ça se mérite de manger à 1,7 milliard de Chinois. Et donc, il faut absolument changer de vision sur le poisson, comme on a changé sur la viande et comme on change sur l'agriculture elle-même.
Là, on parle des comportements individuels aussi, Bruno Parmentier.
Ben, oui, c'est-à-dire, il faut se rendre compte que les Français, on est les spécialistes du bien manger.
On n'est pas les seuls.
Bien manger à terme, moi qui suis l'heureux grand-père de 7 petits-enfants, bien manger, je dis, est-ce que je réchauffe ? De combien je réchauffe la planète avec mon assiette ? C'est bien de bien manger, mais je vois aussi mes petits-enfants en disant, si la manière dont je mange aujourd'hui fait que dans 50 ans, la vie va être invivable pour mes petits-enfants, eh ben ça me coupe l'appétit.
Et donc, vous mangez plus de viande, Bruno Parmentier ?
Ben, j'en mange beaucoup moins. Ouais. Voilà.
Aujourd'hui, finalement, quand on regarde les chiffres qui sont assez édifiants, on voit bien qu'en Europe, on mange presque 5 fois trop de viande que ce qui devrait être normalement prescrit. Aux États-Unis, c'est plus de 6 fois la quantité. Donc, effectivement, réfléchir à nos menus et à nos régimes alimentaires et également pour les générations futures, ça passe par le fait de manger moins de viande. Vous le rappelez tout le temps dans la revue de presse, c'est-à-dire aussi de manger de la viande qui est issue de signes de qualité. On a la chance d'avoir en France des producteurs de viande qui sont installés, qui font paître leurs élevages dans les prairies, qui participent également donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au stockage du carbone. Mais il faut en passer par une viande qui n'est pas d'un élevage industriel, mais qui est un vrai retour à l'élevage dans nos régimes alimentaires. C'est aussi plus de légumes secs, de légumineuses, manger des pois chiches, manger des pois, etc. Puisque ce sont des choses qui sont des aliments qui sont importants à la fois pour la santé humaine et pour le climat.
Le rôle des femmes à travers le monde en matière d'agriculture, en matière d'alimentation est souligné dans le rapport du GIEC qui est publié aujourd'hui. J'aimerais que vous nous en parliez, Mathieu Brun. Il y a là quelque chose d'assez important dans la façon dont on peut imaginer l'agriculture du futur.
Effectivement, on pense souvent à l'agriculteur en oubliant l'agricultrice.
Alors qu'elles sont très peu nombreuses à travers le monde.
Alors qu'effectivement, elles sont très nombreuses à produire également. Elles sont très nombreuses à chaque jour cultiver la terre. Moi-même, mes parents sont agriculteurs. On a souvent oublié le rôle de ma maman, qui était elle aussi agricultrice derrière cet agriculteur. Sauf que dans la plupart des pays du monde, aujourd'hui, les femmes n'ont pas un accès au foncier, un accès au crédit, un accès aux formations, qui est le même que les hommes. Des hommes qui ont souvent dû partir à la ville, migrer ou dans d'autres pays pour travailler. Alors que les femmes sont restées sur l'exploitation et donc ont cette tâche qui est de produire. En plus de ça, il faut rajouter le fait que aujourd'hui, dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, ce sont les femmes qui nourrissent les enfants. On l'a vu dans des programmes qui sont des programmes de développement, notamment à Madagascar, de sécurité maternelle et infantile. On peut à la fois former les femmes à mieux alimenter leurs enfants pour qu'ils soient plus résistants et qu'ils aient une meilleure sécurité alimentaire, et en même temps à changer leurs pratiques agricoles. Introduire des légumes secs, introduire une certaine dose de viande, puisque certains pays, eux, manquent encore de viande, ça passe aussi par la formation des femmes qui sont un puissant vecteur de transformation du système agricole et alimentaire.
Bruno Parmentier.
Oui, je voudrais donner un chiffre pareil qui me semble significatif. Une femme va à l'école primaire, elle fait un enfant de moins. Elle va au collège, elle fait 2 enfants de moins. Elle va au lycée, elle fait 3 enfants de moins. Elle va à l'université, elle fait 4 enfants de moins. Donc, l'idée, ça n'est pas du tout de dire aux Africaines, arrêtez de faire des enfants. Je veux dire, l'Afrique, elle est complètement sous-peuplée. Enfin, il y a quelques régions surpeuplées en Afrique, le Nigeria, le Rwanda et l'Égypte. Mais tout le reste, c'est sous-peuplé. L'idée n'est pas arrêtez de faire des enfants et vous serez riches. C'est faut enrichir les gens et ils arrêtent de faire des enfants. Plus les femmes auront de la responsabilité, plus elles auront de la formation, mieux on vivra, moins il y aura de mortalité infantile, mieux les terres seront cultivées et mieux les gens seront nourris.
Ça,
donc
ça
c'est notre
pas,
intérêt, ça.
Voilà, ça ne concerne pas non plus que les femmes et que l'Afrique. Mais merci à tous les deux pour cette intervention dans les matins d'été à l'occasion de la publication du rapport du GIEC. Merci Bruno Parmentier. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui est disponible sur Internet, Agriculture, Alimentation et Réchauffement Climatique, livre que vous demandez de ne pas imprimer, avec en épigraphe cette citation de Chateaubriand, « Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent ». C'est pas toujours vrai, vous venez de nous dire l'inverse aujourd'hui. Et puis merci aussi à Mathieu Brun du club Déméter, vous avez coordonné récemment le dossier de la revue Confluence Méditerranée, agriculture et politique des champs d'insécurité.